Radio Louise Michel,
la radio des collégiens de Gorges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.
Bonjour à tous nos auditeurs fidèles et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Pitre Révolution. Je suis Marcia, votre animatrice passionnée par notre belle planète bleue.
Et je suis Milena, ravie de vous retrouver pour cette seconde émission qui promet d'être encore plus riche en découvertes. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets qui nous tiennent à cœur. N'est-ce pas, Naël ?
Je m'appelle Naël et je suis ici pour vous parler du Pitre Révolution.
Pitre Révolution.
Une initiative géniale menée par un groupe d'élèves volontaires au CDI. Nous nous réunissons chaque semaine pour organiser des actions en faveur de l'environnement. Cela fait maintenant 2 ans que notre groupe existe et nous avons accompli beaucoup de choses. De la création d'un journal numérique, dont la dernière édition vient de paraître, à la production d'émissions radio et de vidéos disponibles sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo de l'année passée intitulée « Pitour au collège de Ganges » pour découvrir nos nombreuses actions. Cette année, nous participons pour la seconde fois au concours de l'Institut Océanique de Monaco. Nous avons la chance d'être accompagnés par Antoine, notre journaliste préféré de Radio Escapade, et par notre super professeur documentaliste, Frédéric. Et sans oublier Maëva, qui sont les piliers de ce magnifique projet, et sans elles, nous ne serions pas là. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette émission Bérangère Rémy, chargée de mission Natura 2000. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Et Laurie Perrault, que tout le monde connaît, qui est notre spécialiste scientifique, qui nous parle depuis l'Institut océanographique de Monaco en visio avec nous, avec qui nous avons préparé cette émission. Bonjour Laurie. Et merci d'être avec nous même pendant tes vacances. Nous les interviewerons à la fin de l'émission.
Tout à fait. Et Laurie nous a même fait visiter en décembre l'aquarium de Monaco lors d'une visio, comme si on y était. C'était méga super.
En maternité, a du bon, mais travers les plaisanteries plongeantes des vifs du sujet de notre première chronique présentée par Livia, Loïs et Mélanie.
Ensemble, nous allons plonger dans un sujet important, l'impact de l'agriculture intensive sur notre biodiversité.
Exactement, Livia. L'agriculture intensive, avec son utilisation importante de pesticides et d'engrais chimiques, ainsi que sa pratique de la monoculture, a des répercussions désastreuses sur notre environnement.
Pour vous donner une idée, des études récentes révèlent une baisse alarmante du nombre d'insectes. Dans certaines zones d'Europe, les populations d'insectes volants ont chuté de plus de 75% en 30 ans.
Il n'y a pas que les insectes qui souffrent. Les oiseaux sont également grandement affectés. Près de 420 millions d'oiseaux sauvages ont disparu en Europe ces dernières années, en grande partie à cause de l'agriculture qui modifie leurs habitats.
Pauvres petits oiseaux.
Sans oublier les amphibiens cruciaux pour l'équilibre naturel de nos écosystèmes. Leur nombre décroît rapidement, victimes de la pollution et de l'assèchement des zones humides, indispensables à leur reproduction. Plus de grenouilles, plus d'étangs.
Cette agriculture menace aussi la diversité végétale. Les vastes champs de monoculture, l'utilisation abusive d'herbicides et la conversion des terres en zones agricoles homogènes entraînent la perte de nombreuses espèces végétales comme les coccinelles qui portent bonheur.
L'effet domino est inquiétant. Moins d'insectes signifie moins de nourriture pour les oiseaux et les amphibiens, réduisant encore leur nombre d'eux-mêmes. Une faible diversité végétale peut nuire à la qualité des sols et par extension à l'ensemble de l'écosystème. Plus de nourriture, plus d'humains.
Heureusement, il existe une lueur d'espoir. En adoptant des méthodes agricoles plus durables, en favorisant la biodiversité par la rotation des cultures, la conservation des zones humides et la limitation des pesticides, nous pouvons inverser cette tendance.
Nous avons tous un rôle à jouer. En tant que consommateurs, opter pour des produits issus de l'agriculture durable peut inciter à l'adoption des pratiques respectueuses de notre planète.
Nous vous rappelons l'importance de chaque geste pour préserver notre biodiversité.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons
à bientôt.
On continue avec une petite leçon d'histoire, n'est-ce pas?
Exactement, Milena. Lilo et Thaïs, c'est à vous de nous parler de ces pesticides, des outils de guerre reconvertis qui versent nos assiettes. Et si on transformait des outils de guerre en pesticides? Qu'est-ce que ça donnerait? Laissons la parole à nos chroniqueuses, Lilo et Thaïs.
Salut à tous, ici Thaïs et à mes côtés, Lilou. Aujourd'hui, on aborde un sujet méga super trop préoccupant, l'usage des produits chimiques, initialement conçus pour les combats durant les guerres, qu'ils ont désormais employés dans nos champs, sous la forme de pesticides. C'est incroyable mais réel. Hein, Lilou? Durant les conflits mondiaux, diverses substances chimiques ont été développées pour affaiblir ou neutraliser l'ennemi. Par la suite, ces technologies ont été réadaptées pour lutter contre les insectes et les mauvaises herbes en agriculture.
Ce qui est incroyable, c'est la persistance de ces pratiques, malgré les risques dangereux. Ces produits ne nuisent pas seulement aux cibles visées, mais également aux animaux, à l'environnement et potentiellement à nous, les destructeurs ambulants.
En effet, et comme si les alarmes de guerre avaient retrouvé une nouvelle utilité dans nos cultures et nos jardins. Prenez les abeilles, essentielles à la pollinisation, elles sont gravement menacées par certains de ces pesticides.
Le danger est également réel pour les humains, en particulier pour ceux qui travaillent à proximité des champs agricoles, exposés à ces substances toxiques.
Heureusement, il y a eu une lueur d'espoir. L'agriculture biologique gagne du terrain, refusant l'usage de ces produits chimiques, nocifs et favorisant des méthodes naturelles pour protéger les récoltes.
Et nous avons tous un rôle à jouer en optant pour des produits bio, comme les nouvelles couches Pampers Ultra Bio. Nous soutenons les agriculteurs qui viennent à notre santé et à celle de notre planète.
C'est notre résolution pour aujourd'hui. Nous espérons que vous vous êtes sensibilisés à l'importance de choisir de pratiques agricoles respectueuses.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Thaïs et Lilou,
vous invitant à réfléchir aux impacts de vos choix quotidiens.
Radio Louise Michel, la radio du collège au CDI.
Maintenant, un peu de théâtre avec Nolan et Lilou Desbros qui vont aborder la destruction des habitats. Un sujet sérieux, n'est-ce pas?
Tout à fait, Marcia. C'est comme perdre sa maison au profit d'un parking. Eh oui, nos pauvres animaux se font déporter contre leur gré. C'est horrible.
Bonjour à tous, je suis Nolan et à mes côtés, il y a Lilou. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons explorer un sujet essentiel à la destruction des habitants et ses conséquences désastreuses sur la biodiversité.
Oui, tout à fait, Nolan. La destruction des habitats, c'est très important d'en parler, car c'est une vraie menace pour la faune et la flore. Partout dans le monde, elle est causée par plusieurs activités humaines, telles que l'urbanisation rapide, la déforestation, l'agriculture intensive et l'exploitation minière.
Ces activités transforment les écosystèmes vitaux, tels que les forêts, les zones urbaines, et les prairies en terrain agricole, en zone urbaine, ou les sites d'extraction. Ceci anéantit ainsi les habitants naturels de nombreuses espèces.
Regardons les forêts tropicales qui hébergent plus de la moitié des espèces terrestres. Leur destruction rapide peut laisser place à des cultures comme celle du palmier à l'huile et une stratégie pour la biodiversité.
Et n'oublions pas que les récifs coralliens, bien sûr, malgré leur faible couverture sur la surface océanique mondiale, ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines. La surpêche et le réchauffement des océans et la pollution sont autant de facteurs qui menacent leur vie.
À cause de la destruction des habitats, une diminution de la population des espèces, une érosion génétique et à terme des extinctions. Les espèces qui dépendent des habitats spécifiques sont les plus touchées.
Heureusement, il y a encore temps de réagir à conservation et les restaurations. Les habitats naturels sont cruciaux pour le maintien de la biodiversité. Cela comprend l'établissement et réserves naturelles, la reforestation, la réhabilitation des zones humides, et vous pouvez nous aider.
Nous pouvons tous contribuer à cet effort, que ce soit en soutenant des organisations dédiées à la conservation, en adoptant un mode de vie durable ou en sensibilisant notre entourage à l'importance de ces enjeux.
En unissant nos forces, nous pouvons lutter contre la destruction des habitants et sauvegarder l'incroyable diversité de la vie sur Terre.
Merci de votre écoute et attention. Nous sommes Lilou et Nolan, vous rappelant que la sauvegarde de nos habitats naturels est essentielle à la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre. Au revoir.
Et maintenant, une petite chanson.
La radio du collège Louis-Michel non truqué.
C'est sur Radio Escapade.
Et pour finir nos chroniques, Camilla et Alix, mes meilleures amies, vont nous parler de l'urbanisation, cette jungle de béton qui remplace peu à peu notre nature verdoyante.
Où sont passés les arbres et les animaux dans tout ça? Camilla et Alix, à vous de nous éclairer.
Salut à tous, ici Camilla et à mes côtés Alix. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur un phénomène mondial qui transforme notre planète, l'urbanisation.
Tout à fait, Camilla. L'urbanisation fait référence au développement et à l'expansion des zones urbaines, englobant la construction de logements, de routes, de commerces et d'industries, souvent au détriment des espèces naturelles et agricoles.
Et son impact sur la biodiversité est alarmant. En transformant des forêts, des champs et d'autres écosystèmes en zones urbaines, nous ne perdons pas seulement des habitants vitaux, mais nous causons également la fragmentation des écosystèmes restants, compliquant ainsi la survie des différentes espèces.
Considérant par exemple les zones humides vitales pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et d'amphibiens, l'urbanisation aux alentours de ces milieux peut provoquer leur pollution ou leur dessèchement, mettant en danger les espèces qui leur en dépendent.
L'urbanisation entraîne également une augmentation de la pollution lumineuse, sonore et de l'air pur, ce qui peut désorienter les animaux, perturber leur comportement reproductif et diminuer la qualité de leur habitat.
Et n'oublions pas que les villes produisent d'immenses quantités de déchets et de pollution, impactant non seulement les zones urbaines elles-mêmes, mais aussi les régions avoisinantes, y compris les cours d'eau qui peuvent véhiculer ces polluants vers des habitations distantes.
Heureusement, il existe des initiatives encourageantes, telles que les corridors écologiques qui facilitent la reconnexion des habitants fragmentés et leur projet de ville veste intégrant la nature au milieu urbain pour favoriser la biodiversité.
Chacun de nous peut contribuer des gestes simples comme le soutien aux espaces verts locaux, le jardinage urbain ou l'engagement dans des projets de conservation peuvent vraiment faire la différence.
Absolument, Alix. Bien que l'urbanisation soit réaliste, inévitable de notre développement mondial, nous avons le pouvoir de gérer de façon à protéger et même enrichir notre environnement naturel.
Merci de nous avoir suivis dans cette discussion. En somme, nous pouvons œuvrer pour équilibrer entre le développement urbain et la préservation de la nature. C'était Alix
et Camilia.
Vous rappelant que chaque action compte pour la santé de notre planète.
Après cette passionnante chronique de nos volontaires Pitour, passe à notre invité spécial, Bérangère Rémy, directement depuis les Cévennes. Prêt à répondre à nos curiosités, Bérangère ?
Je suis prêt.
Bérangère, en tant que notre invité spécial directement depuis les Cévennes, pourriez-vous commencer par vous présenter et nous parler un peu de votre rôle au sein de Natura 2000 ?
Alors, je m'appelle Bérangère Rémy, je travaille pour la communauté de communes des Cévennes Grangeoises et Suménoises depuis 2016 et je suis chargé de mission Natura 2000 dans cette collectivité où je m'occupe d'un site Natura 2000 qui s'appelle la ZPS Gorge du Rio Torfage Cagnas, une zone qui couvre environ 12 000 hectares, qui est à cheval entre le Gard et l'Hérault, et une zone donc a été délimitée en 2006 pour la préservation d'espèces d'oiseaux, et en particulier des rapaces. Il y a la présence d'espèces emblématiques comme l'aigle de Bonelli sur cette zone, le vautour percnoptère, l'aigle royal, enfin plein d'espèces d'oiseaux qui sont menacées à l'échelle internationale, et qu'on trouve ici dans les Cévennes, comme vous dites, entre Cévennes et Garrigues.
Très bien. Et avec votre expertise, quelles sont, selon vous, les principales conséquences de l'urbanisation et de l'agriculture intensive sur l'écosystème des Cévennes ?
Alors, c'est deux menaces qui pèsent sur la biodiversité, sur le vivant à l'échelle nationale et même internationale. Ici, on a encore à peu près préservé par rapport à ça, notamment par rapport à l'urbanisation. On n'est pas dans des zones, on n'est pas la banlieue de Montpellier. Où on voit que l'urbanisation gagne tous les jours des terres agricoles et des garrigues. On a encore des milieux qui sont assez préservés, des petits villages. Mais malgré tout, la menace pour la biodiversité, elle est là. Parce qu'il y a aussi d'autres projets. Je pense par exemple à des projets de parcs photovoltaïques qui se développent, enfin qui poussent pour développer des énergies renouvelables et qui vont consommer des espaces de nature, soit des milieux agricoles, soit des milieux de garrigues ou même de forêts. Donc ça, c'est des menaces qu'on a ici. Et après, concernant l'agriculture intensive, ben pareil, on n'est pas ici dans la Beauce ou dans les plaines de Champagne où on a vraiment une agriculture qui est très intensive et qui a détruit quasiment tout le vivant. On a de l'agriculture qui est encore à peu près raisonnée. Mais quand même qui utilisent des produits phytosanitaires, on appelle ça des pesticides, on parle d'insecticides, de fongicides, etc., plein de choses qui tuent le vivant pour maîtriser une agriculture intensive qui doit produire et beaucoup produire. Et tout ça, ça a des conséquences sur la biodiversité parce que ça détruit des insectes et s'il n'y a plus d'insectes, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des chiffres qui sont très inquiétants, toutes les espèces derrière qui vont consommer ces insectes, elles vont disparaître aussi parce qu'elles n'auront plus à manger.
Et encore, selon vous, quelles sont les conséquences de la destruction des habitats naturels dans les Cévennes ?
Alors pareil, les Cévennes, on est quand même assez préservés par rapport à ça, par rapport à d'autres milieux périurbains ou urbains où il y a beaucoup de pertes d'habitats. Mais la perte d'habitat, tout simplement, ça a été dit tout à l'heure, si on casse votre maison et qu'on y met un parking à la place, vous êtes à la rue. Et je ne sais pas, un lézard qui a pu son habitat, parce que le lézard, je ne sais pas, c'est un exemple que je prends, le lézard, il va avoir besoin de prairies, de garrigues, d'un bosquet pour aller se réfugier, d'un tas de pierres pour aller jeter, s'il a pu un de ces éléments, c'est tout le cycle qui est cassé, et du coup cette espèce elle disparaît tout simplement. En fait non, on ne doit pas dire qu'elle disparaît, parce que ça serait de la magie, c'est pas du tout de la magie, c'est quelque chose de bien réel, et elle est détruite en fait, c'est plutôt le terme qu'il faut utiliser.
D'accord. Natura 2000 est un programme essentiel pour la préservation de la biodiversité en Europe. Pouvez-vous nous expliquer quelles actions spécifiques sont menées dans les Cévennes pour protéger les rivières et les espèces rares ?
Voilà, dure question. on va parler de Natura 2000, je vais parler de mon action Natura 2000. Donc déjà, Natura 2000, pour le présenter rapidement, c'est une directive européenne. Donc il y a partout dans les pays de l'Union européenne des sites Natura 2000 où on protège la biodiversité, des zones bien spécifiques où on a repéré qu'il y avait des espèces menacées à l'échelle européenne, et donc dans ces zones on va protéger la nature un petit peu plus qu'ailleurs. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à Natura 2000, c'est que le challenge, la philosophie de ça, c'est de concilier les activités humaines avec la préservation de la nature. C'est pas des zones qui sont mises sous cloche où on va tout interdire pour préserver coûte la biodiversité. C'est des zones où on va devoir concilier des activités en tout genre, économiques ou même pas économiques, des activités humaines avec la préservation de ces espèces et de leur habitat surtout. Et donc pour revenir localement ici sur ce que nous on fait sur ce site Natura 2000 Gorge du Rio Torf, Hache Cagnasse, donc sur les rivières on fait pas grand chose parce qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux qui concernent les oiseaux sur les rivières du territoire. Il y a le martin pêcheur par exemple, mais voilà, c'est pas une espèce qui a un fort enjeu. On est obligé de prioriser nos actions parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, et on agit prioritairement sur les espèces les plus menacées, celles que j'ai citées tout à l'heure, les rapaces. Et donc on mène des actions sur leur site de reproduction pour éviter d'aller déranger ces rapaces pendant les périodes de reproduction. Je sais pas, moi par exemple on travaille avec les grimpeurs, avec les escaladeurs, pour pas qu'ils aillent faire de l'escalade à côté des nids pendant la période de reproduction. Et après on va aussi, ça c'est un exemple, mais il y en a plein des actions de ce genre. Et après on travaille aussi avec sur les zones d'alimentation, parce que c'est des oiseaux, ils ont besoin de falaises pour se reproduire et ils ont besoin de zones pour aller chasser. Ils vont chasser par exemple des lapins, des perdrix, qui vont trouver plutôt dans les zones de garrigues. Et ces zones de garrigues, on cherche à les préserver. J'étais pas plus tard qu'hier avec des agriculteurs par exemple, des éleveurs de chevaux du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort pour les encourager à continuer à faire du pâturage avec leurs chevaux sur des zones de garrigues pour que ces garrigues elles restent en bon état. C'est deux exemples, mais des actions, il y en a plein.
D'accord, merci. Et en tant que chargé de mission, quelle est la partie de votre travail que vous trouvez la plus gratifiante ?
Sans aucun doute les suivis, parce que du coup je fais différents types d'actions de conservation comme je le disais, de sensibilisation comme je suis en train de faire là par exemple en répondant à vos questions, et aussi j'ai une partie de mon travail qui est le suivi de ces oiseaux, d'aller les observer sur leur site de reproduction, d'aller ensuite les baguer, des fois on leur met même des balises GPS pour les suivre de près, et tout ça c'est toujours des choses qui sont assez excitantes pour moi en tout cas, parce qu'on travaille avec du vivant, il y a plein de surprises, il y a plein d'inattendus, et des fois on trouve des choses géniales, et puis de les observer ces oiseaux, c'est toujours des moments intéressants et fabuleux pour moi, même après plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans, même 25 ans que je fais ça, et voilà, je prends toujours autant de plaisir à faire ça.
Et pouvez-vous nous partager une réussite ou un projet dont vous êtes particulièrement fier ?
Oui, je peux. Une réussite, je sais pas. Enfin, je vais raconter un petit moment, pas plus tard qu'hier. Hier, j'étais du côté de Saint-Bosile-des-Putois sur un site de reproduction où il y a un couple de vautours percnoptères. C'est donc l'espèce emblématique du territoire, qui est une espèce migratrice. Et encore une fois, cette année, il y a des oiseaux qui sont revenus, les deux individus du couple de vautours percnoptères, et je les ai observés ensemble hier dans leur nid. Et c'est toujours un moment super émouvant parce que ils partent pendant plusieurs mois. Ils sont partis en septembre, là, et donc ils sont revenus cette semaine. Et enfin, voilà, de les voir revenir, ça fait chaud au cœur. On se dit, ça y est, ils sont là. Et voilà, c'est un petit... Une petite réussite. Bon, j'ai rien fait, hein, je les ai juste observés, mais voilà, c'était une réussite quand même.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et maintenant, un grand retour avec Laurie Perrault, toujours en visio depuis Monaco. Laurie, prête à plonger avec nous dans les mystères des océans et leurs littoraux ?
Oui.
Dans le cadre de votre travail avec l'Institut océanographique de Monaco, quelle initiative prenez-vous pour sensibiliser le public à ces enjeux ?
Pour sensibiliser le public, déjà, c'est vrai que c'est une des missions du musée océanographique. Hein, c'est même avant de sensibiliser, c'est un peu d'émerveiller, de faire connaître, hein, parce que je pense que c'est la même chose dans les Cévennes, mais on a envie de se mobiliser, de protéger... quelque chose quand on le connaît et quand on est quand on s'émerveille justement de cette nature. Donc un des principaux le principal enjeu, c'est déjà d'émerveiller le public aux beautés de l'océan, et ensuite de prendre conscience aujourd'hui des menaces qui existent dessus et du rôle qu'on peut avoir chacun. Donc la sensibilisation, elle passe par le petit public, et puis par vous aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes aussi en train de vous mobiliser, de partager ces infos, cette voix, donc c'est par le biais aussi de la jeunesse qu'on peut faire ce genre de choses.
Merci. Les océans couvrent une grande partie de notre planète. Quels sont les défis spécifiques liés à la protection des espaces marins et comment l'Institut contribue-t-il à ces efforts de conservation ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui quand on parle de l'océan. Alors, l'océan est vaste. Et on n'a pas les mêmes problématiques partout. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de mobiliser, de sensibiliser un maximum de gens. Et l'Institut, il se situe à plusieurs chemins à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un rôle de sensibilisation, de médiation qui est très important. Et il y a aussi un autre rôle, c'est de pouvoir de faire le lien entre les différents acteurs de la société, c'est-à-dire faire le lien entre des politiques, des scientifiques qui ont ces informations, de faire le lien avec le citoyen et tous ces corps qui vont permettre justement d'alerter et de trouver des solutions pour protéger l'océan. Donc l'Institut en lui-même, il n'est pas producteur de solutions, mais il a un rôle de sensibilisation et un rôle de fédérer justement ces différents acteurs autour de cette problématique.
D'accord. Et pour finir, Laurie, quel message d'espoir ou quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs qui veulent contribuer à la préservation des océans et des littoraux ?
Il faut des messages d'espoir, ça c'est important, parce que c'est vrai, quand on parle aujourd'hui de conservation de la nature, on voit qu'il y a beaucoup de choses négatives, dans le sens où il y a beaucoup de problèmes, ça, vous en avez bien pris conscience. Mais par contre, il y a toujours des solutions qui existent à notre échelle, à notre quotidien. Donc ça, on peut agir sur plein de différents plans. Et même quand on est loin de la mer. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui qu'on parle des Cévennes aussi. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on peut, nous, avoir un impact sur la protection de l'océan, même en étant loin de la mer. Donc ça peut être des impacts et des solutions qui concernent la pollution. Justement, l'utilisation de certains produits, l'utilisation de plastique ou pas de plastique. Ça peut être aussi des actions sur notre mode de vie carbone pour justement agir sur des phénomènes plus globaux autour de l'océan. Mais on a toujours des choses à faire pour la protection de l'océan, c'est sûr.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Quelle aventure aujourd'hui, Milena ? On a traversé des champs, des villes et même plongé sous les mers.
Et tout grâce à notre formidable équipe et à nos invités exceptionnels.
Merci à tous pour ces échanges enrichissants. N'oubliez pas, chaque action, même petite, compte pour notre planète. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Pit Révolution. D'ici là, prenez soin de vous et de notre Terre. À bientôt.
Louise Michel.
La radio des collégiens de Gorges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.